VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la Coupe du monde de football 2018 en Russie. Au programme ce vendredi 6 juillet, deux matchs des quarts de finale. Le premier à Nijni Novgorod et le second à Kazan. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
À 14h temps universel, la France fera face à l'Uruguay. L'attaquant uruguayen Edinson Cavani, très incertain, s'est entraîné hier pour la première fois depuis sa blessure contre le Portugal samedi dernier. Côté supporters, le ton monte petit à petit et quelques fans français présents à l'arrivée hier des Bleus à leur base à Nizhny ont donné de la voix.
J'habite Lyon et on est venus les deux frères et on est venus supporter l'équipe de France. Ils ont fait un très bon match, très très bon match en quart de finale, meilleur match de ma vie que j'ai vu. Et j'y crois avec l'attaque qu'on a, je pense qu'on va y arriver et on va voir la demi et la finale et on va la gagner cette Coupe du Monde.
Même ambiance côté uruguayen, écoutons les réactions de quelques fans.
C'est l'été, Sojo.
C'est un match entre deux équipes. Nous avons une grande défense. Malheureusement, je ne pense pas que Cavani va jouer. Je veux dire, je ne sais pas. Certainement, ça va être une grosse perte pour nous, mais je pense que nous pouvons tout de même relever le défi. L'équipe est mentalement très forte. Les joueurs savent qu'il va leur manquer, mais ils vont jouer à fond, ne serait-ce que pour lui faire plaisir, même s'il n'est pas sur le terrain.
Je pense que l'équipe qui va gagner demain, la France ou l'Uruguay, a une grande chance d'être en finale. Et quel que soit l'adversaire en demi-finale, la Belgique ou le Brésil, le vainqueur du match France-Uruguay va être le champion.
Un peu plus tard à 18h, temps universel, on aura l'autre quart de la soirée entre le Brésil et la Belgique. Après un démarrage poussif, le Brésil est monté en puissance dans la compétition, comme sa star Neymar, beaucoup critiqué. Bien évidemment, il bénéficie du soutien de son sélectionneur Tite.
Vous devez regarder la vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les images. Je serais heureux de le voir jouer à son meilleur niveau et même plus. Même s'il s'agit pas seulement d'avoir le ballon et de faire des dribbles, il y a d'autres actions et si vous observez bien, vous allez voir comment il participe collectivement à la récupération du ballon. Parfois dans les contre-attaques, je ne veux pas nécessairement voir contre-attaquer comme il le fait, mais il privilégie le sens du travail en équipe, ce qui est la meilleure vertu.
Brésil-Belgique, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Demain se joueront les deux autres quarts de finale entre l'Angleterre et la Suède à 14h en temps universel à Samara et Russie-Croatie à Sotchi à 18h. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal du mondial.
Football, toujours, la Ligue professionnelle de football du Cameroun a décidé de suspendre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour défaut de moyens financiers. Les administrateurs de la Ligue professionnelle de foot ont pris cette décision lors d'une réunion jeudi en présence du président du syndicat des clubs d'élite, selon un communiqué du président de cette Ligue, Pierre Semeng. Le Cameroun devrait organiser la CAN 2019, même si le président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, a reconnu qu'il y avait des retards dans les travaux des infrastructures qui doivent accueillir la compétition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En RCA, Médecins Sans Frontières, MSF, a annoncé ce vendredi suspendre ses activités à Bria, dans le centre du pays, à la suite du braquage de sa base dans la nuit de mercredi à jeudi par des hommes armés. Jean-Pierre Caposso, coordinateur MSF à Bria, a déclaré dans un communiqué que ces attaques répétées empêchent les équipes de l'ONG humanitaire de fournir les soins essentiels dont la population a besoin. C'est le deuxième incident grave en moins de 3 mois dont MSF est victime à Bria. La base de l'organisation y a déjà été attaquée au mois d'avril, souligne le texte. Bria, chef-lieu de la Haute-Côte, réputé riche en or et en diamants, est sous la coupe de plusieurs groupes armés qui se battent régulièrement pour le contrôle des ressources naturelles. Afrique centrale toujours, 4 militaires ougandais et 3 civils ont été tués dans un affrontement jeudi sur les eaux du lac Édouard entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Plus de détails avec Irénée Herman Ungbo.
Selon Donata Kibwana, administrateur du territoire de Beni dans le Nord Kivu, un navire ougandais a chaviré provoquant la mort de 4 militaires et 3 civils. Du côté congolais, un militaire et un civil ont été blessés. L'incident a eu lieu à la hauteur du village congolais de Kabiyongé au bord du lac Édouard. Une patrouille navale de la RDC a été attaquée par un convoi de patrouilleurs ougandais sur les eaux congolaises du lac Édouard. Depuis le début du mois, des accrochages entre forces congolaises et ougandaises se sont multipliés. Mercredi dernier, une patrouille ougandaise avait interpellé 18 pêcheurs congolais alors qu'ils installaient leurs filets.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Mali, le commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général malien Didier Dako et son adjoint, le colonel-major Burkinabé Siri Yaya, ont été relevés de leurs fonctions par les chefs d'État du G5 Sahel. Selon notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, ces sanctions avaient été suggérées lors des consultations à Nouakchott entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel en marge du sommet de l'Union africaine.
Certaines décisions ont été prises lors de la rencontre des chefs d'État du G5 Sahel en marge du sommet de l'UA qui s'est tenu la semaine passée à Nouakchott. Le commandant de la force du G5 Sahel, le général malien Didier Dako, a été relevé de ses fonctions, ainsi que son adjoint, le colonel-major burkinabé Séré Yaya. Le massacre des civils des troupes maliennes de la force G5 Sahel à Boulkessi est l'une des causes. L'attaque du camp de Sévaré a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Selon le président français, il s'agit de donner un choc psychologique en changeant tout le commandement de la force G5 Sahel. Et c'est le Tchad qui a été désigné pour remplacer le chef d'état-major général du G5 Sahel. Certains officiers à Bamako parlent d'une rotation normale à la tête de la force conjointe, mais les diplomates occidentaux sont très clairs. Il s'agit d'une sanction pour faute grave parce que le bâtiment du G5 Sahel basé à Sévaré n'avait aucun dispositif sécuritaire efficace pour faire face aux attaques. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Corne de l'Afrique, Djibouti a inauguré jeudi ce qui doit devenir la plus grande zone franche du continent africain. Les autorités djiboutiennes entendent tirer pleinement profit de la situation stratégique de leur pays à l'entrée de la mer Rouge. Morgan Guiriek.
Pendant la cérémonie hier, en compagnie de quelques chefs d'État africains, le président Ismaël Omar Guelleh a vanté les mérites d'un projet phare. La première phase de ce projet couvre une zone de 240 hectares. Il doit coûter 3,5 milliards de dollars financés par l'État djiboutien et un prêt de la Chine. La construction est prévue sur 10 ans et devrait dans le long terme s'étendre sur 4 800 hectares pour en faire la plus grande zone franche du continent. Selon le Premier ministre djiboutien Abdulkader Kamil Mohamed, ce projet devrait permettre de faire croître le PIB de 11%. Plus de 21 compagnies ont déjà accepté de s'implanter. Ces sociétés étrangères vont bénéficier d'une exemption de taxes et vont installer des industries de transformation au lieu de simplement importer ou exporter des matières premières. Le gouvernement djiboutien espère que les profits tirés des ports et la nouvelle ligne de chemin de fer vers l'Éthiopie permettront de couvrir la dette vis-à-vis de la Chine et aideront à sortir la population de la pauvreté.
Bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine, Pékin a commencé à imposer des droits de douane en rétorsion après le lancement par Washington ce vendredi d'une guerre commerciale contre le géant asiatique. La Chine n'a pas donné de précision sur ses représailles, mais Pékin avait averti précédemment qu'il imposerait des taxes sur 34 milliards d'importations américaines, rendant ainsi coup pour coup à Washington. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les tarifs douaniers américains de 25% sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises frappent plus de 800 produits, dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs, tout en épargnant des biens populaires comme les téléphones portables ou les téléviseurs. Côté chinois, ce sont des produits agricoles américains comme le soja, le secteur automobile ou encore des produits de la mer comme les langoustes qui seront frappés de taxes douanières d'une valeur égale. Les deux premières puissances économiques du monde ne devraient pas en rester là, puisque Donald Trump a demandé à son administration d'identifier 200 milliards de dollars de produits chinois en vue de tarifs supplémentaires de 10% applicables avant la fin de l'été.
Pour terminer, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est depuis ce matin à Pyongyang où il compte obtenir du leader nord-coréen Kim Jong-un un engagement détaillé sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.